Bonjour et bienvenue dans les éphémères, édition hors-série. On enregistre aujourd'hui notre deuxième hors-série avec la fabuleuse et très drôle Stéphanie du Centre d'expertise en rééducation pelvi-périnéale Cigogna situé à Sherbrooke. Si vous n'avez pas entendu le premier épisode où on met vraiment la table dans tout ce qui concerne le périnée, la vulve et la base que vous avez besoin de comprendre, vous pouvez y aller, c'est disponible dans tous les épisodes des éphémères. Donc aujourd'hui, on parle plus spécifiquement de préparation à l'accouchement et d'accouchement parce que c'est un podcast qui touche à la maternité. Donc Stéphanie est là pour nous parler un peu plus de cet aspect-là qui intéresse beaucoup de gens.
Tout à fait.
Bonjour.
Bonjour.
Excellent. Donc, comment tu veux commencer? Est-ce que tu veux parler tout de suite des différents types d'accouchements qui sont possibles?
Ben, je pense que c'est la base, hein. La première chose, quand on veut se préparer pour un accouchement, ce qu'on sait, c'est que on peut avoir différentes avenues qui nous sont proposées. Mm-hmm. Pour certaines femmes, ça va être décidé dès le début de la grossesse, que ce soit des césariennes qui sont planifiées. Exemple, une femme qui a déjà accouché par césarienne et qui est tombée enceinte, en deçà des délais de récupération, ça permettra pas de faire un accouchement par voie vaginale basse. Donc, à ce moment-là, les femmes vont déjà savoir qu'elles vont avoir à accoucher encore une fois par césarienne. Et puis pour d'autres, ben c'est des belles surprises de la vie et ça fait partie un petit peu de la game.
Ouais, quand on est enceinte, on sait jamais vraiment à quelle sauce on va être mangé là.
Exactement. Il peut avoir aussi la césarienne planifiée, mais en fin de grossesse, en lien avec le positionnement du bébé. Qui souvent va se déterminer dans les dernières semaines. À ce moment-là, ben on va avoir un rendez-vous, tu sais, comme chez le dentiste là. Donc vous présentez telle date à 8 heures, madame, et puis on va vous faire votre césarienne. Sinon, on a aussi la fameuse césarienne d'urgence qui elle va survenir quand malheureusement l'accouchement par voie basse est compliqué ou on a des craintes soit pour la sécurité de la maman ou la sécurité du bébé. Pour des raisons médicales, pour certaines femmes, pour certaines conditions, on va choisir. Ça pourrait être des femmes qui ont une haute tension, exemple, qui est mal contrôlée pendant une grossesse. Mm-hmm. D'autres conditions médicales qui sont déjà connues. Des anomalies au niveau du bassin qui permettraient pas l'accommodement, le passage du bébé.
Ou le placenta prévia, par exemple, qui est devant le col, qui empêche la sortie. Là.
Exactement. Puis à ce moment-là, dès que ça commence à dilater, ben le placenta va décoller et puis ça peut entraîner des conséquences graves pour le fœtus et la maman. Donc, on prend pas de chance. Sinon, je vous dirais, le restant du temps, ben on s'essaye le plus possible pour un accouchement par voie vaginale. La grosse différence entre ces deux types d'accouchements, principalement la césarienne, première chose, on n'aura pas tout l'aspect nécessairement de travail et de poussée au niveau du périnée et d'engagement de la tête et de sortie au niveau du bébé, au niveau du périnée. Donc, c'est ça. Donc, ça va un peu mettre de côté les structures puis leur laisser un petit break. Donc, on n'aura pas nécessairement tout ce qui est en lien avec le passage du bébé dans le canal vaginal.
Mais on parle seulement de l'accouchement lui-même, là. On parle pas de toute la pression.
Exactement.
Qui s'est exercée avant.
Oui. Oui. La grossesse reste la même, là. Oui. La pression qui s'est exercée, tout ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, là.
S'applique.
La seule chose qui va changer, ben, c'est le fait que on n'aura pas l'espèce d'étirement. Moi, j'aime bien l'appeler la split. Qu'on va essayer de faire à nos muscles au niveau de notre périnée. Par contre, on va aller donner la claque à d'autres structures. Donc, ces structures-là, c'est principalement les structures qui sont abdominales.
OK. Parce qu'il y a une incision qui est faite sur plusieurs couches.
Plusieurs couches. Puis, il y a plusieurs vidéos qui sont super intéressantes qui ont circulé sur les médias sociaux, à savoir combien de couches on coupait pour se rendre jusqu'à finalement
l'utérus. C'est assez impressionnant, hein?
Tout à fait. Donc, on a la peau. Dans les autres structures, on a les fascias, on a des aponevroses, on a les muscles pour finalement se rendre directement à l'utérus puis aller chercher le bébé directement à l'intérieur. Donc, on s'entend qu'on a vraiment plusieurs couches successives où est-ce qu'on va avoir des points de suture. C'est surprenant, ces cicatrices-là, parce que on se dit, ah, mais c'est pas si gros que ça. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, puis surtout les gens qui n'ont jamais vu de césarienne en vrai, c'est qu'ils vont faire une petite incision, mais qu'il va y avoir des assistantes de chaque côté qui vont prendre des espèces de cuillères, mais en bout de fourchette, OK? Et qui vont venir chercher chaque côté. Et quand le médecin va dire go, les deux personnes vont se mettre à tirer très fort pour essayer d'ouvrir davantage l'ouverture sans avoir à couper davantage. Donc,
ça se peut que ça déchire?
Non,
ça déchire pas?
Non, les instruments choix sont vraiment faits en sorte pour, c'est vraiment juste pour dégager puis ouvrir l'ouverture pour que l'obstétricien gynécologue puisse avoir accès puis faire son travail comme il faut. Mais ce travail-là, puis surtout cet outil-là a tendance à rentrer un petit peu vers l'intérieur. Donc, souvent, les bouts de des incisions, donc de la cicatrice de la césarienne. C'est pour ça que c'est souvent très sensible, très douloureux dans ces régions-là. Okay. Mais les filles, heureusement, ont une super belle toile qui sont devant elles. Donc, ils peuvent pas voir là, qu'est-ce qui est en train de se passer.
Ce qu'on appelle le champ opératoire.
Exactement. Puis, une chance que ça existe.
Oui, effectivement.
Parce que sinon, ça peut être assez traumatisant. Et puis, sinon, pour...
On est à l'extérieur, il faut noter qu'à côté, ils sont en train de changer une toile de piscine. Donc, désolée pour les sons. La chaleur est intolérable dans la maison, donc on va vivre avec.
Tout à fait. Donc, et puis par la suite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il va y avoir plusieurs étages de points de suture qui vont être faits. Donc, il va y avoir des points de suture qui vont être faits au niveau de l'utérus. Par la suite, il va en avoir sur les différentes couches de tissu qu'on va venir retrouver pour se retrouver avec finalement, à la sortie, des belles broches qui vont venir refermer le tout. Et ça, ça clôt la césarienne. Puis sinon, l'accouchement par voie basse, tout simplement, c'est le bébé qui va s'engager dans le canal vaginal. Donc, une fois que la dilatation va être complète au niveau du col utérin, le bébé va s'engager dans les voies vaginales, puis va sortir de l'extérieur, puis ça sort du vagin et on l'attrape à l'extérieur, tout simplement.
Donc, il n'y a pas nécessairement d'intervention, de coupure, à moins que ce soit vraiment... je dirais pas requis, là, l'épisiotomie est de moins en moins valorisée ou en tout cas privilégiée.
Mais ça dépend toujours de la personne qui va accoucher la femme puis qui va mettre au monde le bébé. C'est pas qu'il y a des bonnes puis des mauvaises interventions hein, au niveau obstétrical là, lors des accouchements. C'est plutôt qu'il y a des circonstances dans lesquelles il y a certaines actions qui vont être requises puis qui vont nécessiter l'utilisation de certains instruments. Fait qu'à ce moment-là, il faut s'en remettre puis avoir pleinement confiance dans la personne qui vous aide à accoucher, dans le fond, qui vous accompagne dans votre accouchement. Certaines circonstances dans lesquelles ça va tellement vite que c'est pas une erreur volontaire. Où est-ce qu'on voit plus de pression? Moi, je te dirais, c'est plus alentour que nécessairement l'épisiotomie ou l'utilisation des forceps ou autres. C'est plus alentour de la péridurale. Certains médecins vont être habitués, dans le fond, de donner naissance dans certaines positions. Là, ils vont être un petit peu plus stricts. Puis c'est tout simplement parce que eux, ils se sentent pas dans leur zone de confort. Donc, ils se sentent moins aptes à suivre ce que la maman demande. Ils ont pas nécessairement toutes les connaissances. Puis l'aisance. Des fois, ils ont les connaissances, mais l'aisance vient pas avec. Okay. Fait qu'à ce moment-là, ben c'est sûr que ça fait en sorte que il y a des clashs. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler avant avec le médecin. Comme ça, si le médecin lui dit, ben moi je me sens pas à l'aise là-dedans, puis non, moi je fais pas ça. Ben là, à ce moment-là, ben la femme, elle reste dans son choix puis dans son droit. T'sais, on peut changer d'équipe, on peut changer d'obstétricien, on peut tout simplement opter pour une naissance en maison de naissance à ce moment-là. Si jamais on sent qu'on clique davantage avec certaines personnes, puis que les pratiques de cette personne-là correspondent davantage à nos besoins.
Fait que ce que je comprends de ce que tu dis, Stéphanie, c'est que dans le fond, c'est important d'aller chercher l'information sur le processus de la naissance, ce qui nous correspond. Et à ce moment-là, si on décide que c'est pas pour nous, ben tout de suite prendre la décision d'en changer ou essayer de trouver une alternative, essentiellement.
Tout à fait. Dans le fond, le but, c'est de respecter tout le monde, hein, parce que ce qu'on veut faire, c'est que les mamans aient un libre choix de comment l'accouchement voudrait que ça se passe au mieux des connaissances qu'on a au moment où est-ce qu'on décide. Mais en même temps, il y a tous les imprévus, les conditions de santé, tout ce qui peut se dérouler dans un accouchement qui peut faire en sorte que les plans changent complètement. Puis c'est correct, puis ça arrive souvent. Puis des fois, ça se passe exactement comme c'était prévu. Par contre, si on voit que notre vision clash complètement avec celle de la personne qui nous suit, ben c'est juste un signe. C'est pas de dire que la personne n'est pas compétente. C'est juste que les affinités sont pas présentes. Puis la correspondance entre ce qui est attendu puis ce qui va être fait, ben si ça concorde vraiment pas, ben, à ce moment-là, on pour le bien de tous, je pense qu'on est mieux de changer de praticien.
Ouais, puis l'accouchement c'est tellement un moment important dans la vie que ça vaut la peine de se poser des questions puis de réfléchir à ce qu'on veut vraiment.
Exactement.
OK, excellent. Donc dis-moi Stéphanie, on parle beaucoup de préparation à l'accouchement.
Oui.
Mais pourquoi est-ce qu'il faut se préparer à l'accouchement?
Moi, je dis souvent que l'accouchement, c'est comme un marathon, OK? Je vous donne par exemple, moi, mon mari, là, je lui demanderais d'aller courir un marathon demain matin, là, probablement qu'il mettrait ses running shoes puis il courrait au complet le Moses, OK? Sans entraînement, sans rien. Il fait partie de la catégorie des gens qui font suer comme ça, OK? Fait que lui, dans sa circonstance, ben, tu te dis, ben, ça sert à quoi de m'entraîner pendant des mois? C'est vrai, mais si vous prenez moi, par exemple, moi, j'ai de la difficulté à compléter un 5 km. Donc, si moi, je m'en vais pour faire mon marathon demain matin, je risque d'en manger une claque puis de me ramasser avec des crampes aux mollets rendues au 3e kilomètre. OK? Donc, moi, dans ma situation, c'est vraiment... je serais avantagée de me préparer avant. L'accouchement, pourquoi je le compare à ça? Parce que c'est vraiment... Ça peut être vraiment de plus longue durée. Parce que non seulement l'accouchement comprend les phases de latence, le travail actif, puis par la suite la délivrance, dans le fond, la naissance du bébé, puis ensuite la délivrance du placenta. Donc, c'est long, là, tout ça. Et puis, ça prend...
Ça peut être long, hein? C'est
oui.
Pas dans tous les cas, mais
non.
Ça peut être long, effectivement.
Pour certaines chanceuses de la vie, ça se passe très rapidement.
Et c'est qu'on peut pas le savoir à l'avance.
Dans le fond, il faut que ta musculature soit prête, OK? Comme quand tu fais ton marathon. Puis, il faut que le mental soit prêt.
De quelle musculature tu parles quand tu dis faut qu'elle soit prête? On a une idée que le périnée est impliqué, mais...
Exactement.
Il y a aussi les abdominaux.
Tout à fait. Les deux... principaux endroits où est-ce qu'on veut cibler notre prévention puis nos interventions en tant que physiothérapeute là, en rééducation périnéale pelvienne, c'est au niveau des abdominaux puis c'est au niveau du périnée. On veut être sûr d'optimiser la force et d'optimiser l'endurance. OK? Moi, j'essaie d'avoir une gymnaste, un périnée gymnaste que j'appelle. Donc, super forte, mais en même temps, super flexible. Donc, tu sais, quand tu regardes les Olympiques, les filles, là, sont musclées et tout, mais ils te font la split, ils se ramassent avec les pieds à côté des oreilles. Moi, c'est un périnée comme ça que je voudrais.
OK, un périnée qui va dans tous les sens, essentiellement.
Oui, exactement. Donc, qui serait super fort, mais en même temps, qui serait capable d'être super souple. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. OK? L'autre chose, c'est qu'on recherche un certain contrôle, OK, au niveau du périnée, puis au niveau des abdominaux. Donc, ce qu'il faut apprendre à notre corps à faire, essentiellement, c'est d'activer les abdominaux pour être capable d'aider l'utérus, parce que les contractions, là, c'est l'utérus qui essaie de sortir ton bébé tout seul, OK? Fait que, dans le fond, ce que tu veux faire, c'est que tu veux l'aider, là, OK? Donc, tes abdominaux, lorsqu'ils sont forts et qu'on sait comment bien les recruter avec la bonne respiration, ben, ça va venir aider ton utérus à pousser le bébé vers l'extérieur. Exactement ce qu'on veut. Et ce qu'on veut faire et apprendre aux femmes, qui est un petit peu plus touchée et qui nécessite souvent un petit peu plus de doigté, c'est de contracter les abdominaux, de faire une pression pour aider l'utérus et à la fois de relâcher le plancher pelvien. Parce que c'est un petit peu plus difficile à faire parce que normalement, le corps, comment il est fait, c'est que ces deux structures-là sont faites pour contracter en même temps puis ensemble pour justement éviter les fuites urinaires, éviter les descentes d'organes. Sauf là, lors de l'accouchement, on veut que bébé sorte. Mm-hmm. Donc, cet apprentissage-là, pour certaines femmes, ça va être du acquis qu'ils vont avoir dès le premier coup et pour certaines, ça va être excessivement difficile de synchroniser.
C'est la synchronisation des muscles, en fait,
c'est
qui est pas évident
ça.
De ce que je comprends.
Tout à fait. Puis, tu sais, en clinique, on utilise beaucoup d'outils qui sont davantage visuels pour venir aider. Exemple, on va insérer une sonde au niveau vaginal pour capter l'activité électrique de la musculature pelvienne. Puis, on va tout simplement monitorer pendant une poussée qu'on va mimer ou qu'on va pratiquer en clinique. Puis, on va regarder comment que le périnée réagit. Puis, dans le fond, ça va nous permettre de donner une rétroaction aux femmes. Puis, de leur dire, ben ce que tu fais, ben c'est 100% ça qu'il va falloir que tu reproduises. Puis, on va être capable soit de corriger quelque chose qui est mal fait ou simplement d'encourager quelque chose qui est bien fait.
Que ça s'intègre
exactement.
Dans le corps.
Exactement. OK. Exactement.
Et c'est pour faire quoi exactement? On va aller chercher une certaine endurance, on va chercher de la flexibilité aussi. C'est pour éviter quoi?
Ben principalement, ce que les études tendent à nous montrer... Ce qu'on sait, c'est que actuellement, avec les études, on n'a pas eu d'évidence très forte qui vienne soutenir que le fait de se préparer, exemple, d'étirer le périnée avant l'accouchement, que ça enlevait le risque d'avoir des déchirures. Par contre, ce qui semble ressortir actuellement, puis on va avoir besoin d'autres recherches, mais ce qui semble ressortir, c'est que on pourrait aider à diminuer l'intensité ou le grade ou la sévérité, un des trois termes, là, celui que vous préférez.
Ça fonctionne.
Ça va diminuer la sévérité des déchirures qui vont être présentes au niveau du périnée. Donc, puis ça, on va avoir la chance de s'en reparler lorsqu'on va parler du postpartum.
Absolument.
Tout simplement, avec les différents grades de déchirure, plus le chiffre est élevé, plus ça implique des structures, puis plus les séquelles peuvent être importantes. Donc, d'avoir un espèce de pouvoir pour essayer de diminuer au maximum ce risque-là, d'avoir des déchirures qui sont importantes, ça suffit pour motiver à faire
les exercices.
Tout à fait.
Okay.
Tout à fait. Puis en clinique, ce qu'on voit aussi, c'est que en reprenant le contrôle au niveau du périnée, ça donne un effet d'empowerment au niveau des femmes. Il y a une puissance, un sentiment de contrôle, un sentiment d'auto-efficacité aussi qui est présent, de se sentir
capable.
Capable. Ouais. Donc, le fait de préparer ça, ça enlève beaucoup d'inquiétudes.
Puis, on parle des abdos. J'ai entendu, quand j'étais enceinte la première fois, qu'il fallait pas faire d'abdominaux, en tout cas pas les abdominaux standards, là, par exemple le redressement assis, etc. Mais par contre, les abdominaux sont importants dans le processus de la naissance, puis également pour éviter la mauvaise posture, toutes sortes
de diastases.
Oui, la diastase qui est l'écartement des grands droits, il faut le dire pour celles qui le savent pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme exercice? Là, je te demande pas de rentrer dans trop de détails parce que c'est important de savoir qu'un plan est toujours personnalisé à la personne. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, pour le grand transverse?
Ce qui est important là, de comprendre, c'est qu'on a différentes couches de muscles. Okay? On a des muscles qui sont plus superficiels, des muscles qui sont plus profonds. Pendant qu'on est enceinte, on veut essayer de travailler le moins possible les muscles qui sont les plus superficiels. Les muscles.
Le six-pack, on s'en fout, là, pendant la grossesse.
C'est exactement de ça. Le six-pack, c'est quand on va venir le solliciter, ce muscle-là, il s'appelle le grand droit. Et puis, quand on va venir le solliciter pendant qu'on est enceinte, ce muscle-là, il est merveilleux, là. Il a été conçu pour la grossesse. Okay? Il ressemble à une caramilk, entre lesquelles on a du tissu conjonctif. C'est essentiellement du collagène. OK? Les morceaux de caramel, c'est fait pour que le muscle puisse s'accommoder à l'abdomen pendant qu'on est enceinte. C'est
donc
merveilleux.
Se séparer.
Exactement, ouais. Se séparer, c'est fait pour ça. OK? C'est très beau sur les messieurs. Mais ce muscle-là, c'est lui qui va nous faire faire le redressement assis conventionnel. Tu sais, quand t'es couché sur le dos, puis là, t'essaies de ramener tes coudes vers tes genoux, là. Ce qu'on veut essayer le plus possible, c'est de pas le faire forcer, ce muscle-là. On est en train de faire la grande split, là.
Okay? On a besoin qu'il s'étire au maximum.
C'est
là,
exactement
sans déchirer.
Ça, là. Exactement. Fait que dans le fond, ce qu'on veut pas mettre, c'est davantage de pression sur le système. Donc, on va essayer. Bon, première chose, si vous faites du gym, on enlève tout de suite les crunchs, que ce soit les crunchs réguliers ou les crunchs obliques.
On parle de redressement assis quand on parle de crunch.
Exactement. Donc, on essaie d'éviter ça au maximum. Là, après ça, toutes les dérivées de ce qui ressemble à un crunch, mais qui est pas vraiment un crunch. Donc, c'est-à-dire, je suis couchée sur le dos dans mon lit et je tente de me lever. Et au lieu de me tourner sur le côté et de me relever tout bonnement, ben j'essaie de me lever vraiment très droite dans mon lit, passant de la position sur la tête sur l'oreiller à je suis assis carré dans mon lit. Bon, ben tu viens de faire un redressement assis, OK? Et malheureusement, tu sais, ton redressement assis, quand tu le fais au gym, tu montes et tu redescends. Bon, ben si tu veux aller te coucher et que tu t'assis carré dans ton lit, puis que tu te laisses là, le dos là, partir lentement là, vers ton oreiller, ben ce que ça fait, exactement la même chose. C'est un redressement assis, mais juste pas complet. On a juste la partie la plus difficile, celui de retenir le mouvement. Et ça, c'est dommageable. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éviter le plus possible de faire ces actions-là pendant qu'on est enceinte.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour fortifier, en fait, la sangle abdominale?
Ce qu'on veut travailler, alors, c'est le muscle le plus profond. Celui qu'on retrouve, là, qui tapisse l'abdomen. Et c'est le muscle de la gaine naturelle. Donc, il s'appelle le transverse de l'abdomen. Ce muscle-là va s'attacher, dans le fond, sur le bassin, sur le pubis, puis il va même remonter, puis il va s'attacher sur les côtes, OK? Donc, vraiment, il tapisse tout le devant, et ce muscle-là, il est sécuritaire d'être travaillé pendant qu'on est enceinte, puis même, au contraire, c'est lui qui va nous aider à expulser bébé. C'est l'exercice où est-ce qu'on essaie de cacher qu'on est enceinte à la famille alentour. Donc,
on rentre le ventre.
C'est exactement ça. Ce qu'on veut faire comme action, dans le fond, c'est qu'on veut expirer l'air de nos poumons. Donc, on veut pas faire un espèce d'effet... Puis tu sais que là, le bedon rentre, mais en aspirant l'air. Au contraire, cet exercice-là, ce qu'on va faire, c'est que l'air sorte de nos poumons. Puis ce qu'on veut, en même temps que nos côtes s'abaissent et que l'air sort de nos poumons, on veut que le nombril rentre de plus en plus vers la colonne vertébrale.
Est-ce qu'on peut le faire debout, assis, couché, cet exercice-là?
Oh, tu as donné tellement des beaux exemples. Tu pourrais même le
dans
faire...
Dans toutes les positions.
Oui, couché sur le côté, ça pourrait être fait à quatre pattes. Dans le fond, peu importe la position, ça va juste donner soit un petit défi supplémentaire, parce que quand on est, exemple, à quatre pattes, ben la gravité est contre nous. Donc,
oui,
ça
parce
devient...
qu'il faut remonter ton bébé.
Exactement.
Okay, exact.
Donc, à ce moment-là, ben ça donne un petit défi supplémentaire aux femmes qui ont besoin de challenge dans leur vie.
Fantastique. Donc, ça, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment besoin de voir une physio là, pour pouvoir travailler le transverse.
Ça dépend
si on pense qu'on le fait pas mal, qu'on le fait pas bien, peut-être.
Je dirais, la plupart des gens que je vois en clinique contractent pas le bon muscle. Puis, ce qui est subtil là-dedans, c'est que bon, tu peux pas vraiment le voir parce que là, la seule action que tu vois, toi, c'est ton ventre qui rentre. Mm-hmm. Puis souvent, les gens vont dire, ah, ben, il rentre, mais c'est correct. Mais c'est une contraction qui est vraiment subtile. Pendant la grossesse, elle est moins subtile parce que vraiment, tu sais, notre ventre va rentrer davantage. Mais surtout, chez certaines femmes qui, quand que, elles vont faire par accident, je l'espère, mesdames, parce que là, après, vous avez dit de pas faire de redressement assis, vous êtes pas supposé d'en faire.
J'en ai fait un hier par accident.
Ça arrive toujours, puis là, tu regardes ton ventre, tu fais comme,
à chaque fois,
non.
Je me dis, ah, je le sais, en plus.
Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, si, malencontreusement, vous le faites ce fameux mouvement de redressement assis-là, puis vous voyez comme une espèce de petit dôme, là, qui vient d'apparaître.
Oui, le pointu.
Le pointu sur le top de bedaine, là.
Ou t'es dans la douche, tu tires un peu vers l'arrière, puis là, le ventre fait un cône, là.
Bon, ben, ça, là, c'est une perte de contrôle de tes muscles abdominaux. Puis, c'est le contenu qui veut se faufiler une petite place dans ton tissu entre tes deux muscles des grands droits.
Donc, tu te remets tout de suite en posture neutre. Là,
exactement.
Parce que c'est très mauvais de rester dans cette position-là.
Quand c'est pointu comme ça, on cherche pas. Puis, c'est pour ça que je veux pas qu'on fasse des redressements assis. Parce que le pointu, au fil du temps, ben si on va chercher tout le temps Monsieur Pointu, ben il va finir par nous aimer et par rester.
Par rester, ouais.
Exactement.
Okay,
donc, le muscle transverse de l'abdomen va servir essentiellement à corriger ça. Peut-être pas complètement pendant la grossesse parce que c'est difficile parce que le ventre est toujours en constante expansion à chaque journée qui passe. Mais par contre, on va quand même être capable de le contrôler. Puis c'est ça le but.
Oui.
Parce que souvent, les femmes vont dire « Ah, je veux pas avoir de diastase. » Je vais peut-être en choquer quelques-unes. Là. Si vous dépassez 37 semaines de grossesse, mesdames, vous allez avoir une diastase. Ok. Dans le fond, on appelle ça une diastase de grossesse. C'est une diastase qui est fonctionnelle à ce moment-là parce que c'est pour permettre à votre bébé de prendre le poids qu'il a besoin de prendre puis de prendre l'espace qu'il a besoin. Par contre, ce qui est pas normal, c'est quand on garde ça, une fois que le bébé est plus là, ouais. Là, il y a plus aucune raison que les abdominaux restent écartés.
Mais l'idée, en fait, de savoir, c'est comme n'importe quoi. Si on est assis tout le temps sur le divan, nos muscles s'affaiblissent, ils sont plus capables de faire leur travail, et éventuellement, on devient moins fort. Ben, pendant la grossesse, oui, les muscles s'étirent, mais c'est important de les garder en
actifs.
Travail.
Oui, tout à fait.
Pour que ce soit plus facile à la récupération par la suite, dont on parlera dans l'épisode numéro 3. Soyez là.
Ça sera très important, cet épisode.
Donc là, on parlait aussi, pour la préparation à l'accouchement, de ce qu'on doit faire comme soin. Donc, le quoi faire, ne pas faire, est-ce qu'on a tout couvert ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'on devrait faire et ne pas faire?
Bon, là, c'est sûr, je vous parle de soulèvement de charge, mesdames. Là, principalement, une des autres choses qui vont initier puis amener une diastase beaucoup plus précocement dans la grossesse. Quand je dis précocement, ça veut dire... À 37 semaines, on sait que ça va être présent chez les femmes, dans le fond, qui portent un enfant, puis c'est parce qu'on est rendu à terme. Okay? Par contre, si votre écartement puis Monsieur Pointu se présente à 13 semaines de grossesse, ça veut dire que vos structures vont s'étirer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps. La femme qui va développer son Monsieur Pointu à 37 semaines, ben, elle a 4 semaines.
Mais le pointu, quand t'es au neutre?
Non, mais vraiment dans les mouvements. Puis ça peut se présenter dans des choses aussi stupides que si c'est notre deuxième grossesse, tu sais, soulever son premier enfant.
Ouais.
Des fois, juste là, la demande en énergie pour soulever un enfant qui a 2 ans, exemple, ben ça peut être suffisant pour faire sortir Monsieur Pointu.
Okay. Mais c'est important quand on soulève à ce moment-là, si jamais on doit le faire absolument, de contracter les abdominaux.
Et si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est là qu'il faut consulter. Parce que toutes les fois que vous allez soulever votre enfant de 2 ans, la mère aimante que vous êtes veut prendre son enfant.
Et l'enfant veut que maman le prenne.
Oui, sinon, on a une crise d'alarme. Mais, dans le fond, il faut vraiment être capable de contrôler davantage les abdominaux. Puis ça, c'est gagnant. Ça, je vous le garantis. Vous pourrez jamais regretter d'avoir travaillé vos abdominaux.
Puis okay? L'autre chose à savoir, c'est pas parce que vous commencez à aller voir une physio que ça va prendre 15 rendez-vous. Là.
Oh, non, non.
Des fois, c'est l'histoire de quelques rendez-vous pour régler la problématique qui est là. Et si c'est plus long, c'est parce que votre problème nécessitait prise en charge.
Exactement.
Donc, vous avez bien fait de venir, de toute
façon.
Tout
à fait. Parce que, dans le fond, les rencontres, là, souvent, tout dépendamment, là, nous, à notre clinique, là, il y a certaines filles qui prennent absolument 3 rencontres parce que elles aiment ça, vraiment, là, mettre la table puis mettre toutes les choses en place. Il y en a d'autres que pour elles, en 2 rencontres, dans le fond, une qui est exemple pour faire l'évaluation, donner des exercices qui sont plus appropriés. Puis après ça, un deuxième rendez-vous de check-up, un peu pour voir, bon, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as-tu fait correctement? Puis de corriger les mauvais plis qu'on aurait pu prendre.
OK.
Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Puis souvent, on nécessite pas plus, mis à part celles qui ont des problématiques particulières. Fait que dans le fond, c'est pas un abonnement là que vous a, que vous vous achetez.
Ça
là.
Vous coûtera pas une fortune non plus. Là.
Non, puis je vais vous dire, moi, ce qui fait mon bonheur, c'est le moins souvent possible que je vois mes patientes, parce que je sais que ce que j'ai fait, c'était efficace, puis que ça a réglé leurs problèmes rapidement. Donc, quand je revois les gens de façon régulière, c'est pas que j'aime pas ça, je vais vous voir autant que vous voulez, mais plus qu'on peut régler rapidement, là, oh, moi, comme physiothérapeute, là, j'ai comme un sentiment de mission accomplie, là.
Sentiment d'accomplissement.
Exactement.
Donc là, Stéphanie, maintenant qu'on a parlé de la pourquoi se préparer, comment on se prépare?
Tantôt, tu sais, je vous disais, comme au marathon, c'est il y a une préparation physique puis une préparation psychologique. Mais là, je vais sortir légèrement de mon cadre, tout simplement parce que nous, à la clinique, on travaille avec plusieurs autres organismes qui s'occupent davantage de ce qui est de la préparation, que je dirais, mentale, là, psychologique à l'accouchement. Puis on trouve ça primordial que ce soit fait ensemble, parce que un corps qui est préparé sur un mental qui l'est moins, ça donnera pas nécessairement les résultats escomptés.
Il y a quelque chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est tout l'impact justement du mental, parce qu'à partir du moment où on a peur, parce qu'on s'entend, l'accouchement nous est souvent dépeint comme quelque chose qui peut être très long, parfois abominable,
horrible, douloureux,
tous les mots là, horribles qu'on peut entendre et effrayants. Bon, à ce moment-là, on se dit dans quoi est-ce que je m'embarque? Et puis, au début, à 20 semaines, on est correct. Et quand on approche de la date fatidique, ça se peut qu'on ressente une tension interne.
Oui,
parce
puis de l'angoisse.
On a peur.
Oui.
Et ça a un impact direct sur la fonction physiologique des muscles.
Tout à fait. Parce que, essayez de penser à un moment où est-ce que vous étiez super stressé. Est-ce que vous étiez détendu?
T'es non, en mode fuite, en fait.
Ben, c'est exactement ça. Mm-hmm. Là, on embarque dans le mode, on appelle le fight or flight. Donc, c'est le mode, là, où est-ce qu'on se dit, ma vie est en danger. Est-ce que je me bats ou je dois me sauver.
Donc, ça prend une certaine détente pour être capable d'avoir un accouchement qui se passe au mieux.
Puis, si vous êtes détendu, puis que vous avez confiance, que vous vous êtes préparé, que vous connaissez ce qui s'en vient, vous connaissez les possibilités qui peuvent arriver pendant votre accouchement, ben déjà là, c'est beaucoup moins stressant et votre réponse physiologique, c'est-à-dire votre corps, va être davantage détendu et ça, bébé va être super content.
Le bébé aussi s'en ressent.
Oui, hein? Tout à fait.
Okay.
Fait que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est avoir juste les conditions les plus optimales. Fait que vous allez voir, là, la première chose qu'on recommande, c'est des cours prénataux. OK? Tout simplement. Parce que non seulement il y a l'accouchement qui est stressant, mais il y a la seconde que bébé est sorti, qu'est-ce qu'on fait avec? Et
j'ai une question pour toi, Stéphanie, parce que tous les cours prénataux ne se valent pas selon ce que j'ai entendu dire, tout dépendant de l'endroit où on les prend. Qu'est-ce qu'on recherche dans un cours prénatal qui te semble approprié?
Sans nommer nécessairement, mais moi, je la trouve excellente. Là. On fait affaire avec Marie Fortier, qui est une infirmière spécialisée dans les bébés, puis qui fait beaucoup de cours prénataux, qui offre des services en ligne et autres. Tout ce qui est par rapport aux soins de bébé, préparation à l'accouchement. Donc, tout ce qui est en lien avec visite du milieu d'accouchement, explication des différents protocoles qu'on retrouve dans les différents milieux. Puis là, c'est propre à chacun parce que tout dépendamment de l'hôpital où vous allez accoucher ou du centre de naissance avec votre sage-femme où vous allez aller ou si vous choisissez de le faire à la maison, il y a des choses différentes pour chacun des milieux et ils ne s'équivalent pas tous. Donc, première chose, si jamais vous avez déménagé puis que vous accouchez pas au même endroit qu'à votre première grossesse, reprenez un cours avec quelqu'un de local. J'aime bien le fait qu'il vous offre une visite qui soit virtuelle depuis le COVID du milieu où vous allez accoucher ou du moins qu'ils vont vous offrir du support en lien avec ça. Parce que juste de connaître les lieux, ça va venir aider beaucoup et d'avoir l'information aussi, tout ce qui concerne les phases de l'accouchement, tu sais, les implications physiques, les implications psychologiques, qu'est-ce qui se passe lors d'une phase de latence, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme sensation lorsqu'on passe de 4 cm qui commence à être un travail actif, du 4 à 7, après ça, du 7 à 9 et ensuite à la dilatation complète. C'est vraiment de savoir que le bout, le pire, là, c'est juste avant que ça aille bien.
Psychologiquement, quand on commence à perdre pied.
Exactement, parce que c'est puis tout dépendamment de ce que vous souhaitez comme accouchement également, c'est vraiment très personnel comme choix. Il y en a qui se disent, moi, j'ai pas le goût d'avoir mal. C'est correct.
Il faut se respecter là-dedans.
Oui.
Hein?
Puis il y en a qui disent, ben, moi, j'ai le goût de vivre ça puis d'essayer le plus naturel possible. C'est correct. les différentes volontés, c'est pas une question de un meilleur choix que l'autre, c'est vraiment des convictions personnelles puis des choix qu'on va faire pour nous, pour notre bébé, pour notre expérience. Ouais. Puis ce qui est important, c'est de se trouver quelqu'un qui va venir nous aider à naviguer au travers de ce que nous, on recherche.
Puis des cours prénataux, il y en a, comme tu le mentionnais tout à l'heure, on est en période de COVID, donc il y a beaucoup de cours prénataux physiques qui ont été arrêtés, mais il y en a beaucoup de virtuels qui sont nés.
Oui, tout
et
à
de
fait.
Très intéressants. Donc, faites vos recherches, où je pourrais mettre des liens, là, des suggestions, en fait, que moi, j'ai déjà regardé personnellement. Là, ce ne seront pas des recommandations de Stéphanie, nécessairement. Si c'est des recommandations de Stéphanie, je l'indiquerai comme telle, mais il y en a plein qui existent, essentiellement, et selon aussi la philosophie et la sauce que vous voulez amener à votre accouchement.
Puis sinon, l'autre chose, il y a beaucoup plus de doulas, donc d'accompagnantes à la naissance également, qui offrent un suivi qui est beaucoup plus personnalisé. Moi, ça, ce service-là, je trouve ça exceptionnel pour les femmes qui ont déjà vécu des accouchements qui ont été très difficiles puis qui restent avec un goût amer dans le fond de leurs accouchements précédents.
Ça peut être traumatisant.
Oui, ça peut être traumatisant. Puis il y en a des femmes qui vivent un choc post-traumatique là, après leurs accouchements. C'est important d'en parler. La préparation, c'est pas juste c'est pas nécessairement seulement pour les nullipares. Là, dans le jargon, là, les nullipares, là,
celles qui n'ont jamais eu d'enfants.
OK? C'est pas seulement pour cette population-là. Si vous avez eu des enfants avec un premier conjoint et puis que là, vous avez retrouvé votre perle rare et puis que vous recommencez une deuxième famille, ben pourquoi pas se mettre au goût du jour? Les pratiques ont changé, c'est pas la même chose.
Faut se laisser la place aussi pour explorer différentes choses.
Tout à fait.
Pour décider ce qui nous correspond le mieux. Et ça nous amène bien vers le plan de naissance.
Oui, tout
parce
à fait.
Parce que ça fait partie des choses que tu nous recommandais là, pour les lectures, le plan de naissance.
Oui.
Pour avoir en tête un petit peu ce qu'on souhaiterait.
Oui.
Mais encore une fois, mentalité gymnaste, rester flexible.
Exactement. On se cachera pas, là, puis surtout pour celles qui n'ont jamais accouché, c'est une grosse source d'incertitude, un accouchement. Puis tu n'as aucune idée de comment ça pourrait se produire. Puis là, c'est tout le temps dans ce moment-là là, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui t'arrive avec une histoire horrible. Là.
Ou qui te dit « Bonne chance, j'espère que ça va bien aller ».
Oui, c'est exactement ça.
Ça part mal.
C'est exactement ça. Puis là, tu es comme… Si les gens alentour, souvent, ils sont juste maladroits hein, pour vous donner des conseils. Fait que des fois, c'est pas de prendre le message au premier degré. C'est d'essayer de voir. Souvent, les gens vont dire « Ah, et moi… » avoir su, écoutez les avoir su, pas l'histoire qui est en arrière, ouais. Parce que souvent le avoir su, ben la personne aurait lu davantage sur le sujet, elle aurait amené telle chose avec elle, son huile à massage qu'elle a oublié de mettre dans son sac, etc. Fait que ça souvent c'est les avoir su, c'est les meilleurs conseils. Le reste de l'histoire, on l'écoute pas.
Donc pour le plan de naissance, d'abord qu'est-ce que c'est?
Dans le fond, le plan de naissance, c'est tout simplement un petit peu une liste, c'est pas une liste d'épicerie là, mais vous seriez pas très loin de ça. C'est plus une liste de choses que vous souhaiteriez, OK? Que ce soit pour la gestion de la douleur, votre positionnement pendant le travail, pour votre positionnement pendant la poussée, les soins qui vont être apportés au bébé lors de sa naissance. Donc ça implique plusieurs parties différentes. Puis ça, je trouve ça génial. Si vous avez un compte Pinterest, il y a plusieurs listes qui vous sont proposées. Puis je trouve ça intéressant de voir d'une personne à une autre comment est-ce qu'on se prépare. Puis il y a certaines applications de grossesse aussi qui vont vous offrir cette icône-là de préparation de naissance. Puis ça vous permet justement de vous questionner. Où est-ce que je trouve que c'est pertinent? C'est que vous allez pouvoir vous documenter et connaître les différentes interventions avant d'arriver à votre accouchement. Parce que dans le fond, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un consentement qui est éclairé.
Par rapport à ce qu'on nous propose comme intervention.
Oui, c'est exactement ça. Mais là, quand on est sous feu de l'action, on est en pleine contraction, on n'a pas la tête toute là. Donc, c'est difficile des fois de prendre une décision qui est libre et éclairée à ce moment-là.
Donc, on peut donner des exemples. Ça pourrait être, est-ce que les néons, mettons, vous voulez accoucher à l'hôpital.
Exactement.
Ou vous allez accoucher en maison de naissance, mais il est possible qu'un transfert doive se faire éventuellement. Faut penser à ça aussi.
Tout à fait.
Est-ce que je suis confortable avec les néons ou est-ce que je veux une lumière tamisée? Est-ce que je veux de la musique? Est-ce que je veux du silence?
Si vous n'êtes pas une personne qui aime les bains, peut-être que vous allez dire, ben pour moi, je sens pas la nécessité qu'on m'offre un bain. Vous pouvez tout simplement écrire, ben moi, le bain, c'est pas une option pour moi. Ouais. Puis c'est correct, c'est personnel. Si vous dites, ah ben moi j'aimerais ça, puis je vous parle de ça, c'est mon expérience personnelle. Moi, j'avais marqué à moi, puis j'avais verbalement dit à mon médecin que je voulais avoir l'accouchement le plus naturel possible et que même si je demandais l'épidurale, qu'elles essaient, elle et son équipe,
de t'offrir des alternatives.
Exactement, de m'offrir des alternatives, puis de m'aider au travers de ce cheminement-là. Puis, en le verbalisant, je l'ai demandé, l'épidurale. Puis, je me souviens, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est « Ah ben, il est occupé, il va venir plus tard. » Puis, finalement, j'ai accouché naturellement, exactement comme qu'est-ce que j'avais prévu. Et puis, finalement, j'étais tellement contente qu'il ait respecté ça parce que je savais que sous l'emprise de la douleur, à un certain moment, je pourrais casser. Puis j'avais dit à mon médecin, je sais que je pourrais casser, aide-moi à pas le faire. Oui. Puis dans le fond, elle a tout simplement juste respecté qu'est-ce que moi je lui avais demandé au départ.
Et ça, c'est pas de l'acharnement, hein?
Non.
C'est surtout ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des regrets par rapport à leur accouchement. C'est parce que des fois, elles ne se sont pas projetées sur ce qu'elles auraient souhaité, ou elles ont dit, ben moi, je veux le faire naturellement. Et on le sait là dans la douleur parce qu'il y a de la douleur qui se produit pendant un accouchement.
On se cachera pas.
Ça peut arriver parce que ça n'arrive pas dans tous les cas. Il y a des femmes qui gèrent très bien ça.
Ah oui, tout à fait.
Mais pour la première fois, ça arrive. Il faut accepter ça d'abord, mais il faut accepter également qu'on peut avoir envie de flancher. Mais si votre objectif c'est d'avoir un accouchement le plus naturel possible et que vous dites je veux la péridurale et que tout de suite l'anesthésiste arrive, ça se pourrait que vous ayez un petit sentiment d'amertume après.
Il y en a qui disent, oh mon Dieu, mais finalement, l'épidurale, c'était le meilleur choix. Mais tout dépendamment de c'est quoi fondamentalement, qu'est-ce que vous souhaitez, puis qu'est-ce qui est profondément ancré dans vos valeurs. Puis c'est pour ça que le plan de naissance est important de préparer avant. Puis ensuite, ça vous permet de poser des questions au professionnel de la santé qui vous suit, puis après ça, de valider avec lui si qu'est-ce que vous aviez en tête, ça correspond avec qu'est-ce que lui, il a en tête. Et puis là, à ce moment-là, quand on se rejoint, on arrive à trouver des compromis. Donc, à ce moment-là, on a plus un sentiment de contrôle, malgré le fait que la journée là, que ça va se passer, peut-être que ça va complètement différer du plan. Mais du moins, ça va diminuer l'anxiété, puis ça va diminuer le sentiment de perte de contrôle à l'approche de l'accouchement.
Parce que c'est ce qui est important de dire, c'est que l'accouchement vous appartient.
Exactement.
À moins qu'il y ait vraiment une urgence médicale, l'accouchement vous appartient, vous avez le droit de dire non. Il y a un autre aspect qui me semble important. Là, on a parlé du plan de naissance, comment on aimerait que ça se passe, mais ce serait bien également de se projeter dans le moment. Il y a certaines lectures qu'on peut faire là, par rapport aux positions d'accouchement.
Tout à fait.
Parce que la position, j'ai entendu parler de ça, je trouvais que c'était très imagé, en poulet de Bresse. Donc, couché sur le dos, les jambes relevées, c'est pas la position qui est la plus optimale parce que ça écrase le bassin, ce qui fait que c'est optimal pour le médecin, mais peut-être pas pour la femme, et apparemment, ça augmente les douleurs.
Mais ça dépend de chaque femme. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, nous, dans nos suivis de grossesse, souvent, on va les tester, ces positions-là. Une femme là qui a d'atroces douleurs au niveau du bassin, OK? Peut-être qu'une position, là, ça va être marqué dans le livre que c'est la plus écœurante au monde. C'est full facile pousser là-dedans, OK?
Puis ça dépend toujours comment ton bébé est placé.
Ben, c'est exactement ça.
Toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte.
Mais tu sais, des fois, dans le livre, c'est marqué ça. Puis physiquement, les filles sont comme, non, c'est parce que j'ai jamais été aussi inconfortable de toute ma vie, là. Je referai jamais cette position-là. Donc, là, à ce moment-là, tu fais, ah, ben, check. Tu sais, ce qui est marqué sur ton livre et tout ça, ben, ça s'applique pas à toi, tu sais, tout simplement. Puis il y en a qui disent, ah, ben, cette position-là, honnêtement, moi, je l'avais déjà rayée, puis c'est dans cette position-là qui pousse le mieux. Puis là, tu fais, ben non, raye pas ça. T'es la meilleure dans cette position-là. Puis là, ah, puis des fois, ça les fait revenir sur leur position. Ce qu'il faut vous garder en tête, là, c'est que souvent, on va essayer d'aller chercher des positions où est-ce qu'on va, ça va faire ouvrir le bassin, où est-ce qu'il va y avoir des légères asymétries au niveau des jambes, justement, pour que ça vienne élargir davantage la partie basse du bassin pour permettre au bébé de bien s'engager puis de bien faire l'espèce de plongeon qu'il doit faire dans le bassin pour s'engager. Mais ceci étant dit, pour être capable que ces positions-là soient bien faites, faut que votre corps soit quand même symétrique là, tu sais, dans l'ensemble. Fait que si jamais vous avez des douleurs au dos, des douleurs au bassin, si jamais vous avez une douleur à la symphyse pubienne, puis ça fait plusieurs semaines que il y a certaines positions que vous pouvez pas prendre du tout, exemple se coucher avec les jambes d'un côté, mais pas sur se coucher avec les jambes de l'autre côté. Quand il y a des asymétries qui sont présentes comme ça, ben c'est important de les adresser comme ça.
Comment l'accouchement peut être que ça coince là.
Exactement. Puis là, dans le fond, vous avez toute une équipe derrière vous. T'sais, nous à la clinique, on est des physios, mais on a aussi des ostéopathes, des massothérapeutes qui travaillent avec nous. Donc souvent. C'est comme un petit melting pot de tout ça qui va permettre de préparer le corps à l'accouchement.
Ouais. Il y a la chiro aussi, là, spécialisée pour les femmes enceintes.
Exactement.
Qui peut vraiment aider là, à l'alignement pour s'assurer que tout est bien placé.
tout à fait. Donc, tout ça, s'assurer que c'est vraiment symétrique, puis aussi que votre périnée, tu sais, tout ça, ce soit symétrique, ben ça vient vous aider. Sinon, autrement, impliquer votre conjoint.
Comment est-ce qu'on implique le partenaire? Je dis partenaire parce que ça pourrait être personne de même sexe aussi.
Exactement, donc, tout à fait.
Comment est-ce qu'on implique l'autre personne, l'autre parent?
La première chose, c'est de lui remettre du pouvoir. Si la personne a l'impression qu'elle pourra pas, tu sais, rien choisir, rien faire, ben c'est difficile de s'impliquer parce qu'on se dit, bof, de toute façon, elle voudra pas ou elle fera. Donc, c'est de laisser la place à la personne puis de la laisser l'apprendre sa propre place.
Concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour les aider?
Souvent, les hommes, ils aiment ça être dans l'action. Hein? Moi, souvent, quand je fais mes préparations à l'accouchement puis que je suis rendue au stade où est-ce qu'on monte les exercices d'assouplissement au niveau du périnée et puis qu'on monte les différentes positions d'accouchement, ben moi, ce que je fais, là, c'est que je leur montre. OK, la jambe, là, viens ici. Tu la tiens comme ça. Parce que si tu la tiens d'une manière qui est différente, elle sera pas confortable, elle se laissera pas aller, puis elle va tenir sa jambe toute seule dans les airs, là. OK?
Donc, j'ai une crampe!
C'est exactement ça. Les gars sont bons quand ils sont impliqués physiquement, souvent. Quand ils vont être proches, quand ils vont pouvoir soutenir, quand ils vont pouvoir relâcher une tension, relâcher une douleur. Donc, il y a plusieurs techniques, comme les points de Bonaparte. C'est des points sur lesquels on va appuyer, puis que ça va faire une contre-irritation. Contre-irritation, ça veut dire quoi, tu sais, t'as mal à la tête, puis là, tu marches, tu te pètes le petit orteil sur le bord de la table, puis là, miraculeusement, tu n'as plus mal à la tête, mais t'as vraiment mal à l'orteil. Donc, c'est un peu ça le principe, OK? Fait que dans le fond, on va appuyer sur des points qui vont être très sensibles, très douloureux, puis plus on va peser fort là-dessus, plus ça va faire mal là, mais plus que ça va soulager les douleurs ailleurs.
Et ça permet de te détendre, parce que si t'as mal à, mettons, t'as mal entre les doigts, parce qu'on t'a appuyé très, très fort, mais c'est plus ton muscle du périnée qui va être contracté. C'est ta tête, toute ton attention est concentrée là.
Exactement. Donc, ça va venir aider, ça va faire une diversion. Mmh. Moi, j'adore ça.
Intéressant.
Puis ça, dans le fond, tu sais, mesdames, si vous voulez apprendre les points de Bonaparte vous-même, c'est une chose. Mais tu sais, honnêtement, si, mettons, monsieur en connaît deux, trois, puis tu sais, les meilleurs, là. Tu sais, celui entre le pouce et l'index, là. Il y en a un autre après la cheville, puis il y en a un autre comme sur les trapèzes, là. Tu sais, ça fait comme un petit point. Moi, j'appelle les zouilles, là. Tu sais, c'est le bout, tout ce que t'as le goût de faire. Quand on touche là, ben, disons que ça peut être intéressant. C'est pas nécessairement à vous d'apprendre tout ça par cœur puis de le montrer à votre conjoint. Vous pourriez dire, hey, moi, ça, là, si tu faisais ça, là, je pense que ça m'aiderait beaucoup, chérie, de l'amener à faire de la documentation ou vers des vidéos sur YouTube. Il y en a plusieurs, là. Juste ça, ben, vous venez d'impliquer votre conjoint. J'aime beaucoup dire aux femmes, organisez-vous pour que la communication soit speak and span. Déjà d'établir un plan de communication, tu te dis, regarde chérie, tu sais ce que je veux, là, le plan de naissance, là, je l'ai mis sur table, puis tu l'as vu, tu le lis, tu sais exactement. Donc, c'est toi le communicateur. C'est à toi que les gens vont parler, puis tu vas prendre les décisions, tu sais, que tu juges que tu peux prendre seul. Fait que ça, c'est une autre façon d'impliquer papa. Puis ça vous enlève du stress, mesdames, parce que tu sais, on peut pas tout faire puis tout gérer en même temps.
Là. Non, puis c'est bien d'avoir quelqu'un qui se fait le gardien aussi de tes souhaits.
Oui, tout à fait.
Parce que, comme tu dis, il faut rester dans son corps et non pas dans sa tête quand on accouche. C'est la meilleure façon d'avoir un accouchement qui se passe le mieux possible.
Tout à fait. L'autre chose qui reste, puis qui est un petit peu négligée souvent que je trouve, c'est de préparer l'après.
Avant qu'on rentre dans le préparer l'après, là.
Oui.
Il y a une publicité qui est sortie, je me souviens plus de quelle marque exactement, mais ça montrait une femme après son accouchement qui va aux toilettes, elle saigne, des grosses bobettes, elle a l'air d'avoir mal. Et cette publicité-là a reçu beaucoup de commentaires des deux côtés. Il y en a qui disaient, enfin, on parle de cet aspect-là. Et d'autres qui disaient, ben là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on veut décourager les femmes? Mais en fait, non, c'est juste de montrer
la réalité.
Comment ça peut se passer? Si vous avez déchiré, vous avez des points, la césarienne, vous allez pas vous sentir particulièrement bien après l'accouchement. Ça veut pas dire, ça reste pas, hein.
Non,
mais
tout à fait.
C'est une période désagréable et vous avez pas le goût de commencer à courir les magasins avec vos poings entre les jambes. C'est pas plaisant.
Non, tout à fait. Puis, dans le fond, c'est pas de catastrophiser, là. On peut se remettre très bien d'un accouchement, autant que ça peut être un petit peu plus difficile pour certains, puis d'autres. Tu te dis, mon Dieu, le lendemain matin, fraîche comme une rose, maquillée, en pleine forme. Ça se peut, OK?
Ben oui, ça arrive.
Ça arrive. La seule chose là-dedans, c'est que souvent, les erreurs que je vois chez les nouvelles mamans, ben c'est de sous-estimer, dans le fond, la préparation du après. Puis de se dire, on verra rendu là. Ça peut être aussi simple que de vous assurer d'avoir des Tylenol et des Advil à la maison en quantité suffisante. Tout simplement parce que si vous avez une douleur X que vous devez gérer, à votre sortie d'hôpital, souvent, ils vont vous donner une petite trousse, dans le fond, de survie, là, qui va être de la médication, qui va vous être prescrit soit par votre médecin ou soit des crèmes qui peuvent vous être données par votre sage-femme ou autre. Puis souvent, c'est pour vous dépanner. Hein? C'est juste pour un certain laps de temps. Puis par la suite, c'est ben va à la pharmacie puis organise-toi. Donc, tout simplement d'avoir votre trousse qui est déjà prête pour vous accueillir à la maison, parce que on s'entend, votre maison est vraiment prête pour bébé, mais souvent, on dirait que la maison est pas prête pour accueillir maman.
Non, non. Ben, il y a pas beaucoup de sensibilisation à ce sujet-là non plus, donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc, s'assurer d'avoir des serviettes sanitaires, parce que après avoir eu un enfant, on perd du sang. C'est normal, ça peut durer plusieurs semaines.
Tout à fait.
Vous devez avoir des pads absorbants et les avoir déjà sous la main quand vous quittez.
Puis ayez pas peur de la quantité là, ça arrive des fois que on va aller plus fréquemment à la toilette, tout dépendamment. Sur le système urinaire, il y a énormément de changements qui peuvent se produire après un accouchement. Ça peut arriver aussi que vous soyez constipé ou que vous ayez des diarrhées, ou il y a des personnes qui réagissent différemment. Puis ça, ce que ça permet, c'est de diminuer encore une fois votre niveau de stress, puis d'avoir tout sous la main, puis de pas vous laisser... T'sais, on dit souvent que la gestion de la douleur, c'est ce qui est le plus important au départ. T'sais, gestion de la douleur puis de l'enflure, parce que ça va aider à la récupération. Puis plus qu'on gère ça rapidement, ben plus que vous allez récupérer rapidement. Je vous conseille fortement d'avoir un petit beigne, OK?
Ça, c'est un petit siège mou, un petit coussin qui s'achète en pharmacie, qui coûte une vingtaine de dollars.
Exactement.
Avec un trou dans le milieu pour enlever la pression que vous pourriez avoir sur le périnée, essentiellement.
C'est exactement ça. Fait que si vous avez un point de suture au niveau de votre périnée, puis que vous vous asseyez toujours sur une surface ferme, puis que c'est sensible, ben à ce moment-là, le contact, ça peut être suffisant pour déclencher les douleurs. Donc,
et ça peut être plus long à guérir aussi. Ça, c'est important de le savoir.
Exactement.
Ouais, les hémorroïdes aussi.
Les hémorroïdes aussi. Mm-hmm. Je m'en allais dire ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, j'adore ça, une discussion où la personne dit hémorroïdes avant toi. Donc, à ce moment-là, d'avoir ce beigne-là, pas juste de l'avoir à la maison, mettez-le dans la voiture, parce que le premier voyage en voiture, des fois, il peut être pénible, tout dépendamment à quelle distance vous êtes du lieu de votre accouchement. Mais si c'est 5 minutes, ça va, mais si vous avez une heure et quelques à faire, là, ça peut être pénible. Par la suite, c'est aussi de se préparer à avoir quelque chose de frais à mettre sur les zones qui sont sensibles ou les zones qui sont avec de l'enflure. Si vous n'avez pas de machine à glace à la maison puis que vous faites votre glace dans un petit cabaret, assurez-vous donc que votre cabaret là, au moins soit plein puis que la glace soit prête à être utilisée. La glace doit être utilisée avec modération, hein, parce que la modération a bien meilleur goût. mais dans certains cas, ça va aider du moins à soulager un petit peu la sensibilité qu'on peut avoir. Puis peu importe où est-ce que c'est, mais il faut que ça soit utilisé en modération. Fait, faut pas en mettre trop longtemps, de façon trop agressive. Si vous avez la possibilité d'avoir un petit bain de siège, souvent là, il y a quelqu'un dans notre famille en quelque part là qui a eu besoin de ça, puis on se l'emprunte de mère en fille. Puis c'est le même siège là que ta grand-mère a utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais bref, ça pour dire que ça peut être utile. Le fait d'avoir, j'en ai parlé déjà précédemment, mais tu sais, des lingettes Tux, T-U-C-K-S, qui peuvent aider à diminuer les douleurs, puis à bien nettoyer au niveau des hémorroïdes. Le fait d'avoir ça à la maison, ça, c'est aidant. C'est peut-être pas un sujet qu'on a abordé énormément jusqu'à maintenant parce qu'on se focus davantage sur le périnée, mais tu sais, tout ce qui a trait à l'allaitement. Puis ça aussi, c'est un volet qui est plus important. Il y a davantage de crème à base de lanolin pour mettre au niveau des mamelons, pour vraiment diminuer les irritations, diminuer les douleurs. Donc, des fois, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas nécessairement pensé, qui serait intéressant d'avoir à la maison.
Puis, ce que je veux rajouter, et ça pourra faire l'objet d'un autre hors-série, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez m'écrire pour me le dire. Assurez-vous d'avoir un réseau de contacts, en fait, pour vous aider pour l'après. Donc, quelqu'un qui pourrait venir vous faire un peu de
nourriture.
Quelqu'un qui peut venir vous faire un peu de lavage, venir s'occuper des enfants, si vous avez des enfants plus vieux, pendant que vous vous reposez. L'autre chose aussi, si vous désirez allaiter, c'est important de pas s'arrêter si ça se passe pas comme on l'aurait souhaité au début, parce que oui, c'est naturel, mais ça vient pas toujours facilement.
C'est naturel, mais ça vient pas de façon naturelle pour tout le monde.
Exactement.
Puis on peut avoir bien des embûches.
C'est ça. Donc, ne pas s'arrêter à la première embûche, mais bien s'entourer. Donc, avoir une marraine d'allaitement, c'est gratuit. Vous pouvez faire appel aux nourrissources de toutes les régions du Québec.
Tout à fait.
Également, il y a des consultantes en lactation dans les hôpitaux, puis dans les CLSC. Il y en a également au privé. Donc, surtout s'assurer d'avoir quelques noms.
Tout à fait.
Si ça se passe pas bien, vous avez pas besoin de faire des recherches sur Google, vous les avez déjà. Ça fait partie de la préparation.
Ouais, tout à fait. Puis, j'aime bien dire que le après aussi, assurez-vous d'assurer votre confort à vous. vos besoins à vous.
Ben, parlons-en des besoins de la femme, oui. Parce qu'il y a quelque chose d'important avec l'accouchement, c'est que on avait un bébé qui est remonté et tassé tous les organes. Et là, le bébé, on va en parler dans le prochain épisode plus en détail, mais il va sortir. Donc, à l'après, ça va être important de vous ménager.
Exactement.
Puis pas se faire un plan de match dans les deux semaines. Moi, je vais ranger ma maison parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Je vais prendre un rendez-vous. Si ça, c'est pas le temps.
Non, tout à fait. Ce qui est important, c'est votre récupération. Mieux vous allez récupérer de façon spontanée. Spontanée, là, ça veut dire que je ne fais rien et oh mon Dieu, ça se fait tout seul. Non seulement ça arrive, mais ça se produit. On a une récupération spontanée. Toute la préparation qu'on fait, puis on peut la reprendre tout de suite après. Au niveau des exercices de périnée, on va faire des exercices de renforcement, on va faire des exercices d'endurance, on va faire des exercices de contraction rapide pour essayer de garder le périnée le plus tonique et en meilleure posture possible. Quand vous venez d'accoucher, là, juste la seconde que bébé est sorti, si jamais vous êtes capable de serrer les muscles de votre périnée, ben faites-le. Okay.
Donc, dès la sortie, on peut commencer.
Tout à fait.
Même si on a déchiré.
Exactement. Parce que ce qu'on sait, c'est que le fait de contracter les muscles du périnée, ça va aider à la circulation sanguine. Donc, ça va venir aider à la récupération aussi, si on a une déchirure, exemple. OK? C'est sûr que si on a de la douleur puis que c'est excessivement sensible, mais là, à ce moment-là, on va se limiter, OK, dans le nombre de...
On peut
de...
attendre un peu.
Exactement. On peut attendre. Puis sinon, souvent, ce qu'on se fait, c'est un plan de match. Tu sais, quand on consulte également... tout dépendamment de c'est quoi notre condition, puis ça a l'air de quoi notre périnée. Souvent, on se fait un plan de match pour l'après aussi, là, pendant les consultations. Par contre, à l'hôpital, si vous avez vous mouché, si vous avez éternué, c'est sûr que de venir serrer votre périnée avant de faire ces actions-là, ben ça va venir vous aider. Puis on va essayer de récupérer de cette façon-là. T'sais, on s'est préparé avec des étirements avant l'accouchement. Souvent, c'est vers la 34-35e semaine qu'on va commencer à faire des étirements de façon manuelle.
Étirement du périnée.
Exactement. Puis ça fait partie de la préparation. Puis ça aussi, le nombre de secondes à tenir, le nombre de fois, ça va dépendre aussi de comment le périnée est. Je vous donne un exemple. Si j'ai une femme qui avait déjà des douleurs lors des rapports sexuels bien avant de tomber enceinte, ben ça se peut qu'elle, on fasse débuter un petit peu avant, OK, puis que ce soit un petit peu plus agressif, OK, comme intervention, puis qu'on demande plus spécifiquement d'aller vers certaines régions qu'on a évaluées comme étant les régions problématiques au niveau de son périnée. Puis si au contraire, j'ai une femme qui est rendue à son cinquième accouchement, puis qu'au contraire, a beaucoup plus de relâchement que de capacité de contraction. Mais peut-être que cette femme-là, on va mettre moins d'emphase sur les exercices d'étirement, puis on va mettre plus d'emphase sur les exercices de renforcement.
C'est donc, pour ça qu'on fait pas non plus de recommandations ici très spécifiques, parce que ce n'est pas une recette pour tous.
Exactement.
J'aimerais vraiment ça, mais
ce qu'on sait, c'est que plus qu'on est personnalisé, plus que ça fonctionne. Puis dans le fond, c'est ça qui est démontré comme étant efficace. Oui. Qu'on y aille de façon personnalisée, parce que si on fait faire la même chose à tout le monde, ça fonctionne pas. Puis comme je vous dis, des fois, là, une, deux visites, puis l'affaire est
ketchup,
là. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Puis l'autre aspect aussi, peut-être les dernières choses, tu sais, la poussée puis la respiration, j'en ai parlé brièvement, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on va y aller aussi de façon très personnalisée, là, tu sais, qu'on va regarder puis qu'on va essayer, puis dire, ah oui, cette position-là, ça te convient pour toi. Puis comme je disais, on utilise des sondes, puis on regarde l'activité électrique de la musculature, puis on dit, bon, mais dans cette position-là, ben c'est plate, mais t'es pas capable de te détendre au niveau de ton périnée. Parce que oui, c'est sur papier, ça semble idéal, mais en réalité, pour toi, ça fonctionne pas. Puis souvent, on va essayer différentes positions. Puis les femmes qui ont déjà un peu fait leur plan de naissance, puis qui savent que qui veulent l'épidurale, que ça fait partie de leur choix et de leur demande, ben à ce moment-là, on va mettre l'emphase sur les positionnements qu'on peut prendre avec une épidurale. Puis si au contraire, les femmes ont un suivi sage-femme, puis on sait déjà qu'il y en aura pas d'épidurale à ce moment-là, mais on va essayer une panoplie d'autres positions, vraiment pour essayer de trouver là, je sais pas une perfection, mais tu sais, de trouver la position qui correspond la mieux, oui.
Puis excellent.
C'est le fun à faire.
Absolument. Ben ça fait un beau survol de la préparation à l'accouchement et de l'accouchement lui-même. Donc c'est certain qu'on peut pas vous parler de comment ça se passe parce qu'il y a autant d'accouchements qu'il y a de femmes et de grossesses.
Tout à
aussi,
fait.
Ça faut le savoir. Dans le prochain épisode, on va parler plus spécifiquement des suites de couches qu'on appelle aussi le postpartum. Donc Stéphanie, je te remercie beaucoup de nous avoir encore une fois fait part de tous tes conseils.
Ça,
et puis
ça fait
on
très
se
plaisir.
Reparle très bientôt.
Oui, tout à fait, avec plaisir.
Merci beaucoup d'avoir été là et de soutenir les éphémères.
Si vous aimez ce que vous entendez, la meilleure manière de me le faire savoir, c'est de laisser un avis dans Apple Podcasts ou iTunes. Pour le faire, c'est assez simple. Dans Apple Podcasts, vous cherchez les éphémères, vous vous abonnez et ensuite, vous pouvez descendre tout en bas de la page et là, vous allez pouvoir laisser une note, un 5 étoiles de préférence et un commentaire. Donc, vous pouvez me dire ce que vous aimez le plus des entrevues que vous entendez et si ça vous aide de quelconque façon dans votre vie de maman. Bien entendu, n'hésitez pas à faire circuler les épisodes autour de vous. Et bien sûr, si vous voulez partager votre vécu ici ou alors me faire des suggestions de sujets à aborder dans le podcast, écrivez-moi. Vous pouvez le faire au leséphémères.balado@commercialgmail.com et les éphémères sont aussi sur Facebook et Instagram. Donc, passez le mot autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.